Bonjour à vous tous, frères et sœurs, à cette belle double fête. Nous avons une fête hebdomadaire, le sabbat, le septième jour de la semaine. Et en plus, nous avons le privilège d'avoir une belle fête annuelle de l'Éternel. C'est merveilleux. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui sont à l'écoute. Et je rappelle, c'est quoi les fêtes de l'Éternel ici? Premièrement, vous dire que la fête des tabernacles est maintenant terminée depuis le coucher du soleil hier soir, vers 18h15 environ. Et aujourd'hui est une autre fête de l'Éternel et c'est le 8e jour de fête que nous célébrons. La fête des tabernacles se terminait 7 jours, et aujourd'hui, nous sommes le 8e jour. Et j'aimerais qu'on regarde dans Lévitique 23, où justement, pour les nouveaux, vous avez toutes les fêtes de l'Éternel, incluant le sabbat dans Lévitique 23, du verset 1 jusqu'à plus ou moins la fin de ce chapitre de Lévitique 23. Mais nous, aujourd'hui, nous allons regarder ici le verset 36, la moitié du verset 36 ici, où l'on parle justement le 8e jour, Lévitique 23, verset 36, au milieu de ce verset, le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Et c'est ce que nous faisons, nous ne travaillons pas aujourd'hui, nous célébrons cette belle fête. Verset 37 maintenant. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les cinq convocations que vous publierez, et c'est ce que nous sommes à faire. Et c'est la dernière fête. C'est pourquoi qu'elle dit, voilà, vous aurez une sainte convocation, et le verset 37, telles sont les fêtes de l'Éternel. En voulant dire du verset 1 à maintenant, ceci est la dernière fête. Et c'est intéressant. Et toute chose est faite au jour fixé. Dieu a fixé ses jours de fête. Et c'est merveilleux. Ah, vous savez, ce 8e jour est spécial pour vous et pour moi. Ah, quel grand jour il est en plus. Et comme je viens de vous dire, ah, quel dernier grand jour est ce 8e jour. Donc, tout ce qu'on peut dire, vous et moi, c'est de se réjouir et dire, vive la fête du dernier grand jour. Oui. Maintenant, mon titre, pourquoi l'appeler dernier grand jour? Pourquoi? Et Christ lui-même en parle ici. On le voit ici. Que Dieu nous donne ses fêtes et nous dit, voilà, telles sont mes fêtes de l'Éternel. Ça se termine par le 8e jour. Le dernier grand jour. C'est intéressant. Mais pourquoi avoir fait cela demain? Allons voir Jean 7, si vous voulez bien. Allons à Jean 7 ensemble. Et le verset 37 et 39. Jean 7, verset 37 et 39. Et lisons ce verset. Voilà, il est ici, écrit ici encore, le dernier jour, le grand jour de la fête. Et regardez ceci. Jésus, se tenant debout, s'écria, imaginez, et il dit très fortement, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'est pas encore. Non, il n'était pas là à ce moment-là, chez les gens. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il était toujours vivant. Il n'était pas mort encore pour le pardon des péchés de tout le monde. Et il n'avait pas été encore glorifié non plus. Vous savez, frères et sœurs, Christ cria ici, là, avec conviction, ces paroles si importantes. Et vous et moi, nous crions aussi. Nous avertissons les nations, les peuples. Et nous faisons la même chose que Jésus-Christ. Oui, il parlait ici de la dernière fête de son plan pour toute l'humanité. La fête du dernier grand jour. Et vous savez, la signification de ce huitième jour est très significatif. Peut-être plus même qu'on le pense, même nous qui sommes dans l'Église depuis plusieurs années. Allons à Apocalypse 20. Préparez-vous à avoir un bon stylo qui ait beaucoup d'encre dedans ou un bon crayon avec une bonne isoire. J'ai plusieurs versets à vous donner aujourd'hui. Allons à Apocalypse 20, verset 15 pour commencer. 11 à 15, c'est-à-dire. Apocalypse 20, et commençons à lire au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et ça ici, ça nous parle justement du jugement dernier. Ceci nous montre que oui, nous sommes dans un jour très spécial. Et celui qui était assis dessus ce grand trône blanc, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Un jour très spécial que nous allons vivre après le mille ans du millénium. Et regardez ce qu'il dit. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, la Sainte Bible, tous les livres de la Bible auraient été ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et ce livre de vie existe, comme vous savez. On en a déjà parlé dans le passé, fait des messages sur ce livre de vie. Vous et moi qui sommes baptisés et faisons la volonté de Dieu, persévérons jusqu'à son retour, avons notre nom dans ce livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres dans cette période de temps, le jugement dernier, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, ils ont été jugés sur la parole de Dieu qu'ils mettaient en pratique. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Intéressant et très encourageant avec le sermon, vous allez voir au fur et à mesure et comprendre davantage. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. On va en parler un petit peu plus tard du baptême de feu, justement. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Point final. Jacques, secours, secours, ce qui est secours. Jacques, il est là. Parfait. Il n'est pas là. Dans les temps de feu. Dieu est très clair. La parole de Dieu nous dit ce qu'il en est pour le vrai. C'est important. Ce huitième jour est le jour du grand trône blanc, le jugement dernier de tous ceux, et écoutez bien ceci, qui antérieurement n'ont pas été appelés de Dieu. Ouais. Beaucoup de gens n'ont pas été appelés de Dieu. Encore, pour le moment. Mais ils vont l'être un jour. Je suis très content. Dieu ne fait pas exception de personne. Et oui. C'est le temps de la deuxième résurrection, ce moment-là. Pensons à Jean 6. Allons voir Jean 6. Et nous allons comprendre qu'est-ce qui est mentionné ici dans le Jean. Un peu trop loin. Retournons en arrière. Jean 6, c'est le verset 44 que vous connaissez très bien. Je le sais. Mais allons voir qu'est-ce qui est écrit ici. Voyons, Luc, Jean 6. Bon. Jean 6, c'est le verset 44 que vous connaissez très bien. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Intéressant. Et regardez le verset 65 du même chapitre de Jean 6, qui lui est semblable. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, si on n'a pas l'appel, frères et sœurs, impossible pour nous de connaître Dieu. Parce que tout le monde a été séduit par l'adversaire, Satan le diable. Moi y inclus, avant que Dieu m'appelle. Vous savez, ces gens-ci seront jugés selon les œuvres, écoutez bien, qu'ils feront. Pas qu'ils ont fait dans le passé, mais qu'ils feront. Et remarquez bien, oui, pas les œuvres du passé, tant qu'ils ne connaissaient pas Dieu, mais ça va être les œuvres, vont être juste les œuvres qu'ils vont faire à la deuxième résurrection. Et lorsqu'on ouvrira les livres pour leur enseigner la parole de Dieu, comme j'ai ici. Là, c'est mon tour à moi. Mais un jour, ça va être le tour de ma famille. Mon père, ma mère, mes frères, ma sœur, etc. La même chose pour vous. Ce n'est pas de leur faute. Il faut bien le comprendre. De très nombreux morts ressusciteront à la vie physique en ce dernier grand jour. Et cela pour une deuxième fois. Et recevront l'enseignement de la parole de Dieu pour la première fois. Ce ne sera pas une deuxième chance, comme certains disent parfois. Parce qu'ils ont manqué leur coup la première fois. Non, ça c'est des idées farfelues du monde. Mais ce n'est pas la réalité. Non, ce sont des gens qui ont vécu une vie physique auparavant, oui, sans avoir été appelés de Dieu. Et tout cela peut paraître peut-être un peu mélangeant, confondant. Mais allons à Apocalypse 20. Retournons à Apocalypse 20 maintenant. Et voyons ici ce qui est dit au verset 4. Hein, 6. Vous savez, ça aussi, c'est intéressant ici. Bon, verset 4, Apocalypse 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main. Ça, c'est ceux de la première résurrection. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, la fête que nous avons terminée hier soir au coucher du soleil. Fête des tabernacles. Ça, c'est la première résurrection. Et verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Ça, c'est vous et moi, frères, si nous persévérons jusqu'à la fin. Merveilleux. Quel bel avenir, n'est-ce pas? C'est incroyable. Mais regardons le verset 5 que je ne vous ai pas lu en partie. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce plus clair que ça. Et puis, si on lit le verset 11, on revient à ce qu'on a lu au début. « Puis je vis un grand trône blanc, le jugement dernier, des livres leur furent ouverts à ceux qui ne revinrent pas à la vie. » Parce que là, ils vont revenir à la vie. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, le tout est une question de temps et de compréhension du grand plan de Dieu, de Lévitique 23. Si vous lisez toutes les fêtes de l'Éternel, ça va vous faire comprendre le grand plan de Dieu. Oui, le temps futur du plan de Dieu, représenté par le dernier grand jour, est un jour où tous les humains ayant vécu sur la terre auront une vraie compréhension des choses d'en haut, finalement, à leur tour. La vaste majorité des êtres humains ressuscités accepteront la vérité divine une fois enseignée. Oui, ils vont comprendre, comme vous et moi nous comprenons aujourd'hui. Enfin, ces gens morts présentement, et incluant pour le moment mon frère Robert, mon frère aîné, et mon père décédé, connaîtront le vrai Dieu et le vrai Jésus-Christ et leur raison d'être eux-mêmes. Ils ne l'ont pas compris dans leur première vie physique. Ils n'ont rien compris parce que Dieu ne les a pas appelés. Et l'adversaire les avait séduits. Comme dit tantôt, c'est le dernier jugement, ce coup-là. Après le millénium, tous ces gens vont se réveiller. Dieu ressuscitera des tonnes de millions d'humains. C'est incroyable. Et ceux-ci se repentiront, se feront baptiser et recevront le Saint-Esprit, du moins pour la plupart. Ils vont l'accepter comme aujourd'hui. Vous et moi l'avons accepté. Dieu, vous savez, ne fait pas exception de personne. Dieu aime tous les êtres humains. Comprenons que jugement ici ne veut pas dire condamnation, là, mais plutôt un temps de décision, un temps d'épreuve et d'expérience. Vous savez, nous avons ce temps d'épreuve et d'expérience présentement, vous et moi. Nous sommes jugés, nous qui sommes membres du corps de Christ, ayant reçu le Saint-Esprit. Et j'espère que vous en êtes bien conscients. C'est pas un jeu, là. C'est une réalité. Puis Dieu a un plan avec chacun de nous. Oui, il nous regarde aller jour après jour après jour après jour. Regardons 1 Pierre un peu auparavant, pas tellement loin avant le début d'Apocalypse. 1 Pierre 4, allons voir 1 Pierre chapitre 4 et le verset 17. 1 Pierre 4 et le verset 17, c'est la première partie. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et oui, ça c'est le temps présent. Depuis que Christ est venu sur cette terre, depuis qu'il a donné le Saint-Esprit à des êtres humains que Dieu le Père a appelés et remis à Jésus-Christ. Et Dieu, Jésus-Christ a travaillé avec nous de par le Saint-Esprit. En nous à ce moment-là, une fois baptisés. C'est très important de comprendre ça. Puis Dieu va faire la même chose avec mon frère et mon père plus tard. Et les vôtres aussi. Maintenant, voyons ce que Christ dit dans Matthieu 11, si vous voulez bien, et le verset 20 à 24. Matthieu 11, verset 20 à 24. J'espère que vous me suivez. J'essaie de faire cela de façon plus ou moins chronologique pour vous faire comprendre le grand plan de Dieu et surtout ce dernier grand jour. Matthieu 11, verset 20 à 24. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes, c'est Jésus ici qui parlait, dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ses miracles. On parle du temps de Jésus-Christ, il y a 2000 ans environ. C'est intéressant. C'est Christ lui-même qui dit ça. Vous voyez, il avait fait des miracles, mais ces gens-là ne s'étaient pas repentis. Puis là, il parle à différentes villes. Il pourrait parler de Montréal, Paris ou quoi que ce soit. Aux Antilles, les grandes villes principales, etc. Et il dit ici, « Malheur à toi, Chorazin! » C'est une ville qui était dans la région où Christ était. « Malheur à toi, Bethsaïda! » Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que ces villes-là se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Oui, ils seraient humiliés, ces gens-là, de Tyr. Pourtant, c'était des villes méchantes. Comparativement à celle qu'il avait nommée juste auparavant ici. C'est pourquoi, je vous dis, au jour du jugement, intéressant, il s'en vient ce jour du jugement. On le préfigure aujourd'hui, le 8e jour de la fête. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Mais oui, Tyr et Sidon un jour sera peut-être jugé moins sévèrement que la ville de Montréal, etc. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Vous savez, Dieu est juste, Dieu est amour, comme vous le savez. Et c'est intéressant. Mais tout ça ici qu'on vient de lire, c'est des jugements qui sont très forts. Oui, les gens auront droit au salut, à la vie éternelle dans le royaume et famille de Dieu. Oui, je vais pouvoir revoir mon frère Robert, mon père. Et tout le reste de ma famille, si Dieu ne les appelle pas dans le temps présent. Eux et nous avons la même opportunité, mais plus tard pour eux. Ils ne font pas partie de la première résurrection. Ils vont faire partie, tous ces gens, de la deuxième résurrection. Mais chose certaine, frères et sœurs, cela arrivera, n'en doutez pas. Oui, ça vaut la peine de sourire. On va voir le privilège de voir toutes ces choses un jour. Jean 7, verset 37, il fait référence, comme nous l'avons lu au début. Et c'est Christ lui-même qui parlait. Puis il a crié fort, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Vous savez, cela s'adressait à toute l'humanité. C'est très important de comprendre cela. C'est beau tout cela. Mais le captons-nous vraiment ce 21e siècle? Où sommes-nous trop distraits par toutes les choses autour de nous? Ben oui, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. On lit un livre, c'est tout. Non. Trop de distractions autour de nous, c'est vrai. Y inclut la COVID-19 pour le moment. Souvenons-nous que Dieu a fait les êtres humains à son image. Genèse 1, verset 26. Notez-le. Et oui. Vous savez, mes parents sont nés au début du 20e siècle, en 1925. Ils ont eu 5 enfants. Je suis né au milieu de ce même siècle, 1946. J'ai eu 5 filles et elles m'ont donné 10 petits-enfants à part égale. 5 garçons, 5 filles. Je me souviens de belles choses de mon oncle Raymond, qui était très gentil avec moi lorsque j'étais petit. Ah, ma tante Janine, qui m'invitait joyeusement chez elle. Et je revenais à la maison, j'étais tout petit, j'avais 12 ans, 13 ans. Puis je disais toujours à ma mère en revenant, ma tante Janine est toujours après faire des lavages quand je vais là. Oui, elle avait bien des enfants, mais elle avait du temps pour le petit Jacques. C'est beau à voir ces choses-là. Mon père, qui était un grand travaillant, comme son père, mon grand-père. Aussi pensons aux grands hommes, aux femmes de notre temps, tous morts eux aussi. Ils ont travaillé fort, ces gens-là. Qu'en sera-t-il de ceux qui crèvent de faim dans certains pays africains présentement? Qu'en sera-t-il de ceux qui ont été avortés avant de naître? Ça, c'est la vie de nos jours. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler le nom de Jésus-Christ sur cette terre. Oh, ça va peut-être vous surprendre. Tout le monde connaît Jésus-Christ ici en Amérique. D'une façon ou de l'autre, le bon ou le pas bon Jésus-Christ. Les faux Jésus-Christ. Mais il y en a un qui n'est pas faux. Mais il y a des gens ailleurs. Jésus-Christ, c'est qui ça? J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Eh bien, j'espère que vous et moi reconnaissons, frères et sœurs, que nous sommes privilégiés, incroyablement bénis de Dieu. Wow! Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, utilisons ce privilège à bon escient. Vous savez, après le millénium, lors de la fête du dernier grand jour, qui est loin encore, oui, on n'est même pas rendu au millénium. On n'a pas fait la tribulation encore. Mais après, il va y avoir cette beauté du millénaire qu'on nous a parlé toute la semaine. Et après ce millénaire, il y aura la fête du dernier grand jour que nous célébrons aujourd'hui. Et tous ces gens ressusciteront et se tiendront debout et des livres leur seront ouverts. Nous l'avons lu tantôt. Et ces livres sont la Sainte Bible, parole inspirée de Dieu. Et à ce moment-là, mon père désirera recevoir des enseignements de son fils Jacques. J'espère, en tout cas, qu'il va le désirer et que moi, je serai là aussi. Dieu dit qu'il nous faut persévérer jusqu'à la fin. Et durant cette période de jugement, Dieu va ouvrir la vraie compréhension à ces êtres humains. Des millions d'hommes et femmes vont comprendre la vérité et devenir de véritables chrétiens, de bons serviteurs de Dieu, et peut-être meilleurs que certains d'entre nous. qui sait? C'est de ce dernier jour, le grand jour dont Christ parlait dans Jean 7, verset 37. Oui, Christ pouvait bien le crier haut et fort. Si quelqu'un a soif, venez à moi. Et c'est ce que ces gens-là vont faire à leur tour. Un jour qui durera environ une centaine d'années d'après la parole de Dieu, où vous et moi ouvrirons leurs yeux afin qu'ils aient l'opportunité de connaître Dieu réellement et aussi recevoir le Saint-Esprit. C'est vous et moi qui allons faire ça, si nous tenons bon jusqu'au retour de Jésus-Christ, à faire la volonté de Dieu. Oui, on va les aider à devenir enfants de Dieu, eux aussi. J'ai hâte de voir mon père être enfant de Dieu. Ça va être beau, ça va être merveilleux. Je vais pleurer, je suis certain. Vous savez, ça m'excite tout ça, vraiment beaucoup. Car, en le comprenant bien, nous réalisons la grandeur de Dieu. Et en tant que ministre de Dieu, je trouve cela renversant de voir ce qui va arriver en ce dernier grand jour. Pensons-y. Au temps des apôtres, il y a 2000 ans, 3000 personnes avaient été baptisées en un jour. Moi, aujourd'hui, j'en baptise un ou deux à l'occasion et je me réjouis. C'est incroyable. Imaginons-nous en ce huitième jour, combien allons-nous en baptiser par jour? Vous et moi, et nos frères et sœurs de la première résurrection avec Jésus-Christ, allons avoir de la misère à fournir en ce moment-là. Façon de parler, évidemment. Wow, quelle joie nous aurons tous, n'est-ce pas? Je comprends que Christ l'avait crié fort lorsqu'il était vivant lui-même. Avec raison. Ce sera un temps d'appel merveilleux. Oui, vraiment, il y a beaucoup de profondeur dans ce huitième jour. À ce moment-là, le plan de Dieu pour l'humanité sera complété. Je vous l'ai lu tantôt dans Lévitique 23. Il a terminé avec ce huitième jour, le dernier grand jour. Et c'était fini après, complété. Après ce huitième jour, il ne restera à Jésus-Christ qu'à détruire les rebelles qui consciemment auront dit non à Christ en refusant de se faire baptiser. Parce que tous auront la chance de le connaître à la deuxième résurrection. Ce sera le moment de condamnation ou, comme je vous parlais tantôt, le baptême de feu pour eux et ceux de la troisième résurrection. Oui, on a des résurrections. Il nous faut bien comprendre ces trois résurrections. Allons pour commencer à 1 Corinthiens 15, pour voir cela rapidement. Ce n'est pas le but de mon message, de vous parler de les trois résurrections, mais quand même, pour que vous ayez une bonne idée, surtout vous, les nouvelles personnes qui êtes avec nous. 1 Corinthiens 15 et le verset 12 et 13. Regardez ici le raisonnement que certains avaient. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Bon, ça existait, ça, dans le temps. Aujourd'hui, on a la COVID-19, ça a tué au-delà d'1 million de personnes sur la planète. Puis il y en a qui disent, ben, ça n'existe même pas. J'ai toutes sortes d'idées sur la tête. Regardez le verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Oh oh. Il y a un problème si c'était le cas. Ce n'est pas le cas. Vous le savez, je le sais. Pour vous donner un résumé rapide, la première résurrection aura lieu au retour de Jésus-Christ pour les saints élus de Dieu précédant sa venue. Donc, c'est des gens avant le retour de Christ qui vont participer à la première résurrection. Et cela va se produire juste avant le début du millénaire, comme on voit dans Apocalypse 20. Heureux et saints, oui. Des gens qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont persévéré jusqu'à la mort physique ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est eux qui vont participer à la première résurrection, à la septième trompette. Deuxième résurrection. Pour qui? Mais je vous en ai parlé. Après le millénaire, il va y avoir le millénaire. Pour tous les êtres humains n'ayant pas reçu le Saint-Esprit durant leur première vie terrestre, mon père, mon frère décédé, et les milliards d'autres humains décédés, sans connaître Dieu. Ils seront à ce moment-là ressuscités à la vie physique une nouvelle fois. Et les livres de la Bible leur seront enseignés sur une période de 100 ans plus ou moins. Oui, ces gens-là vont être ressuscités parce qu'ils sont morts de leur première vie antérieure. Christ va les ressusciter et leur donner une centaine d'années pour être capable justement de lire les livres, de se repentir, de se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains. C'est spécial. Allons voir Ésaïe. Je pense que ça vaut la peine de regarder Ésaïe un petit peu. Ésaïe 65. Il me laisse encore un peu de temps. Que l'heure est-il? Ah oui, encore un peu de temps. Ésaïe 65. Et le verset 20. Un petit verset intéressant ici. Je vous parlais du 100 ans que ces gens vont avoir. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc, c'est intéressant. Ces gens-là vont avoir leur chance pendant une centaine d'années de connaître le vrai Dieu, le vrai Jésus-Christ, et de vivre une vie chrétienne selon la parole de Dieu. Juste un peu plus loin dans Ézéchiel 16. Pas Ésaïe, mais Ézéchiel, mais le chapitre 16, quelques livres plus loin. Et le verset 55. Ézéchiel 16 et le verset 55 dit ceci. Je le trouve. 52, je trouve plus 5. Ah oui, bon. Ici, il parle. Tes sœurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur premier état. Intéressant. Autrement dit, mon père va revenir à son premier état. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état, eux aussi. Vos pères, vos familles, qui sont morts sans connaître Christ. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Incroyable, hein? Oui, oui. Deuxième résurrection. Des gens qui ont vécu physiquement antérieurement, décédés pendant X années qui vont revenir dans leur premier état. Je vais vous en parler tantôt, c'est pas terminé. Mais c'est merveilleux. Très beau. Troisième résurrection. Après que tous ces morts auront vécu une deuxième vie physique, auront accepté Jésus-Christ, il va avoir la troisième résurrection après cette période de 100 ans plus ou moins. Pour les gens morts, ayant déjà refusé délibérément ou volontairement, très volontairement, en pleine connaissance de cause, de refuser l'appel reçu de Dieu dans l'une ou l'autre de leur vie physique. Vous savez, il y en a qui présentement ont eu la connaissance de Dieu, mais ont rejeté, ont refusé, se sont rebellés contre la façon de vivre de Dieu. C'est ceux-là qui vont être là. Et ce sera ce que Dieu appelle le baptême de feu de Jésus-Christ pour tous les rebelles de sa création depuis Adam et Ève. Quelques personnes ont été appelées dans l'Ancien Testament, la plupart dans le Nouveau Testament, suite au sacrifice de Jésus-Christ et réception du Saint-Esprit possible. Donc, tout ça, c'est très, très important. Allons maintenant à 1 Corinthiens 6 et le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 9 à 11. Allons lire ces quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 11. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Il parle de gens dans l'Église qui peuvent parler contre leur propre frère spirituel. Et, évidemment, le faire devant des infidèles. C'est déjà, certes, un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Et parfois, certains peuvent faire ça, même dans l'Église de Dieu. Ça ne devrait pas, mais ça peut se faire. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ah ben, il m'a volé une balle de tennis. Il ne l'a pas remis. Je vais l'accuser, le blâmer. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ça va venir ainsi dans les temps de la fin. Regardez le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Intéressant. S'ils ne sont pas dans le royaume de Dieu, où vont-ils être? Dans les temps de feu. Ils vont subir le baptême de feu. Pour ça. Parce qu'ils sont injustes. C'est sérieux. Très sérieux. Maintenant, allons à Matthieu 3. Verset 11. Matthieu 3 et le verset 11. Si on parle de Jean-Baptiste, que si vous avez lu le livre de Matthieu, vous savez qui est Jean-Baptiste. C'est un précurseur de Jésus-Christ. Matthieu 3, verset 11. Je vais vous le lire pour commencer. C'est Jean-Baptiste qui parle. Et il dit, « Moi, je vous baptise d'eau. » Pour vous emmener à la repentance. Et oui, vous savez, acte 2 nous en parle. Il faut se repentir, se faire baptiser d'eau et recevoir le Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste avait le pouvoir de baptiser les gens d'eau pour leur permettre de se repentir. Mais voici ce qu'il dit de Jésus-Christ qui était pour le suivre. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. J'en doute pas, moi non plus. Lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, dit Jean-Baptiste, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Intéressant. Christ a la puissance de nous baptiser du Saint-Esprit et il a la puissance de nous baptiser de feu. Ça veut dire quoi, ça? Rappelez-vous ce qu'on a lu dans Apocalypse 20, 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et cela devrait nous porter à réfléchir, tous et chacun. Très important. Allons voir, juste avant l'Apocalypse, 2 Pierre. 2 Pierre 2 et le verset 20 à 22. 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. En effet, si après s'être retiré de souillure du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Oui, si vous connaissez la vérité et vous retournez à ne plus faire la volonté de Dieu, puis volontairement dire « Non, je ne veux plus être dans l'Église de Dieu », achalez-moi pas. Regardez bien le drame. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truite lavée s'est vautrée dans le bourbier. Vous savez, ces versets sont très, très importants pour vous et pour moi. Très importants. Vous et moi connaissons même des gens qui semble avoir agi ainsi. Dieu est le juge. Dieu condamne. Mais on peut voir des gens qui peuvent agir ainsi. Et cela se fait même aujourd'hui, au moment où je vous parle. Nous nous côtoyons même, parfois certaines de ces gens-là et nous. Est-ce que nous comprenons ici là, ce que dit l'Amen? Le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Est-ce qu'on le comprend vraiment? J'espère que oui. Et si oui, vous allez grandir davantage dans la vérité, dans la pureté. C'est important. Apocalypse 3, juste un peu plus loin. Apocalypse chapitre 3. Et le verset 14 à 22. Je vous lis, nous vivons cette ère de l'Église présentement. Et c'est important qu'on comprenne ce qui est écrit ici. Et chacun, vous devriez méditer sur ce Apocalypse 3, verset 14 à 22. Jacques Secours aussi doit méditer cette partie des Écritures. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Oui, Dieu connaît les œuvres des membres de l'Église de Dieu, des temps de la fin. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant. Oui, Dieu aime mieux une personne qui est froide, qui veut rien savoir, ou une personne qui est bouillante, qui veut tout faire pour la volonté de Dieu. Que des Qu'est-ce qu'il dit à ces gens-là qui seront comme ça dans les temps de la fin? Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. C'est une attitude, ça, frère et soeur. On peut être riche physiquement, on peut être riche spirituellement. Je me suis enrichi. Ah oui, j'ai compris beaucoup d'affaires dans la parole de Dieu. Au point qu'on se pense meilleur que les autres. Et en plus, ces gens-là vont dire, je n'ai besoin de rien, achale-moi pas. Et parce que tu ne sais pas, c'est Dieu qui dit ça, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Wow! Ces gens ont ce genre d'attitude qui ne réalisent même pas qu'ils sont malheureux, qui ont délaissé Dieu en partie. Leur spiritualité a... Dieu les voit comme des gens misérables, des gens pauvres spirituellement parlant. Même aveugles, ils ne voient même pas. Et nus en plus. Qu'est-ce qu'il leur dit? Dieu est plein d'amour. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Voilà ce que Dieu dit de faire si nous avons ce genre d'attitude. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et Dieu aime ces gens-là. Dieu aime tout le monde. Aie donc du zèle et repens-toi. On revient à la même chose que lorsqu'on a connu Dieu, n'est-ce pas? Il faut lui se repentir. Mais ces gens-là vont avoir à nouveau à se repentir. Sinon, ça va aller mal pour eux. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, Dieu est bonté, miséricordieux. Il va les accepter s'il se repent. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est ce que Dieu veut pour nous tous. Verset 22, un petit avertissement. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ouais, j'ai deux oreilles. Vous avez deux oreilles. On entend. Ce que l'Église dit, l'Esprit dit aux Églises. C'est pour vous et moi, ça, frère et soeur. Comprenons bien l'engagement que nous avons pris lors de notre baptême et le oui que nous avons prononcé. Vous savez, quelques semaines, j'ai baptisé une personne dans une rivière. Ouais. Même pas si j'étais en Ontario ou au Québec, mais entre les deux, dans la rivière Outaouais. Et vous savez, cet homme, j'ai posé des questions, puis il m'a répondu oui. Il n'a pas répondu, ben, peut-être, M. Secours, là, je verrai. Non, il m'a répondu oui. Et surtout, ne m'a pas répondu non. Ben, s'il m'avait dit non, on aurait sorti de l'eau. Puis il n'y aurait pas eu de baptême. S'il m'aurait dit peut-être, on aurait sorti de l'eau et il n'y aurait pas eu de baptême. Et il m'a dit oui, on a resté dans l'eau, puis je l'ai baptisé. Et par l'imposition des mains, il a reçu le Saint-Esprit. C'est la façon dont Dieu travaille, ça. Comprenons-le. Maintenant, allons à Jean 10 dans le Nouveau Testament. Allons voir Jean 10 et le verset 1 à 11. Encore une grande lecture. Jean chapitre 10 et le verset 1 à 11. OK. En vérité, je vous le dis. Et vous savez, moi, là, ça m'a impressionné, ces paroles-là dans la Bible, dans la parole de Dieu. Quand je vois ça, en vérité, je vous le dis. Et je vous dis que je regarde puis je lis. C'est comme moi si je dirais à un de mes enfants là, qui sont tout petits, puis je joue avec un ballon dans l'entrée de garage, puis le ballon s'en va dans la rue. Puis là, je vais dire à ma fille, Émilie, va pas chercher le ballon dans la rue. Je te le dis, là, vas-y pas le chercher. En vérité, c'est dangereux pour toi. Hein, je pense que papa est sérieux quand il fait ça. Hein? Ben, Dieu est sérieux aussi. Quand il dit en vérité, je vous le dis, c'est ce qu'il veut dire. Pour de vrai, je te le dis, là. Fais attention, là. C'est important ce que je dis. Écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est clair? Christ est très précis ici. Faut rentrer par la porte dans la bergerie. Ouais, on ne rentre pas autrement. Si vous voulez rentrer chez moi, il faut rentrer par la porte en avant. Lorsque j'avais ma maison, si vous essayez de monter par la clôture à côté de la porte, vous en allez en arrière, puis rentrez par en arrière, vous êtes un voleur. Un brigand. Mais celui qui entre par la porte d'en avant est le berger des brebis. Christ est là à la porte à vous attendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est Christ vous rouvre la porte. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ah, salut François, Michel, Isabelle, Marie-Claude, ou tous les noms que vous voulez. Il connaît ces brebis. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors en plus. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Oui, pas en arrière. Devant elle. Il est là pour donner l'exemple. Il est le guide. Et les brebis le suivent, tout heureux, contents. Parce qu'elles connaissent sa voix. Eh oui. Elles reconnaissent le berger en avant. Qui marche droit. Qui les appelle par leur nom, qui a son bâton, et les dirige bien. Ces brebis ne suivront point un étranger, dit le verset 5, mais elles fuiront loin de lui, de cet étranger, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ben oui, mais je te le dis, t'es pas obligé d'observer le sabbat. Tu peux faire ci, comme ça, c'est pas grave. Les véritables brebis du berger ne suivent pas ce genre de voix. Et Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Lisons cette parabole. C'est important. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, là, c'est sérieux, les boys, les filles, très sérieux. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Oui, ils ont passé par-dessus la clôture pour aller par en arrière. Vous surprendre. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. C'est ce que nous avons si nous suivons Dieu, Jésus-Christ. Lui obéissons. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On en voit beaucoup de voleurs autour de nous. Ne vous laissez pas séduire par le voleur. Moi, le vrai berger, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle. Votre nom faut qu'il soit écrit dans le livre de vie. Et que cette vie, qu'elle l'ait en abondance, chaque brebis fidèle. Et regardez le verset 11. Peu de bergers font cela. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Et la prochaine fête que nous allons célébrer dans 6 mois, c'est la Pâque de l'Éternel. Oui. Notre berger qui a donné sa vie pour ses brebis, vous et moi. C'est fort, vous savez. En vérité, je vous le dis. C'est tellement incroyable. Versets 14 et 15. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça, c'est merveilleux. Quelle belle relation que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ, que Jésus-Christ a avec nous. Regardez le verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Oui. Christ est notre berger, frères et sœurs. Et vous et moi sommes ses brebis. Et il y a des brebis partout sur la planète Terre qui lui appartient. Vous savez, c'est tout simplement merveilleux. J'achète, m'en reste pas gros. OK, le 8e jour, le dernier grand jour que je viens de vous expliquer, j'espère que vous comprenez mieux maintenant, est un jour des plus importants pour toute l'humanité. Ce jour est aussi important pour moi qu'il l'est important pour mon père, mon frère et tous les autres êtres humains. Et j'aimerais terminer ce message ici en vous présentant un monsieur que j'ai rencontré il y a de cela 50 ans. Certains d'entre vous le connaissez, j'en ai déjà parlé. Je suis sûr que certains d'entre vous le connaissez. Oui, il y a 50 ans, frère, ça, c'est loin, ça. C'est très loin, ça. À ce moment-là, j'étudiais à l'Université de Montréal. où j'ai fait un cours de 4 ans en pharmacie. Et ce monsieur-là, je le rencontrais presque à tous les jours en allant d'une salle de classe à l'autre salle de classe au 3e étage. J'avais pas le choix, je le croisais tout le temps, ou presque. Eh bien, il s'agit, pour ceux qui s'en rappellent, de M. Édouard Beaupré, qui est né en 1881 et décédé en 1904. Il était appelé communément le géant Beaupré. Il mesurait 8 pieds et 3 pouces. Un grand, grand monsieur. Moi qui étais tout petit à l'Université de Montréal, j'étais encore tout petit. Je passais devant lui. Il était dans un genre de cage en verre. Et je le regardais tout le temps. Puis ça m'impressionnait de voir ce grand homme. Je vous le présente, il est ici. J'espère que vous le voyez. Il est grand, grand, comme vous pouvez le voir. À sa gauche, c'est un homme normal. Et à sa droite, c'est un enfant. Regardez la différence. Édouard Beaupré. Je l'ai vu pendant mes 4 ans d'université. Bon. Mais là, avec le dernier grand jour, je sais que je vais le revoir. Regardez ce qu'il avait l'air. C'était un petit peu difficile à voir. Mais il était dans une cage en verre. Il était décédé, évidemment. Parce qu'il est mort en 1904. J'étais même pas au monde. Mais voici ce que j'ai vu. Et maintenant, je sais que je vais voir cet homme. Grâce à la parole de Dieu qui me le confirme. Il va faire partie du dernier grand jour. Oui. Cet homme, je vais le revoir autrement dans un jour futur. Oui. Et j'aimerais qu'on regarde justement un dernier verset qu'on connaît tous pour la plupart. Ézéchiel 37 pour terminer. Regardons Ézéchiel 37 et le verset 1 à 10. Ézéchiel 37, c'est la parole de Dieu que je vous parle. Regardez bien ce qu'il dit ici. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. J'ai ici cette vallée remplie d'ossements. Regardez ce que ça a l'air. Okay, on voit des os partout à terre, des bras, des jambes, des têtes. Hein? J'en ai même un ici, qui est fait exprès. Regardez, il est ici. Des os partout. C'est tout ce que c'est. Vous savez, ça porte à réfléchir quand on dit ça. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Des milliers, puis des milliers, puis des milliers, puis des millions d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Il l'a fait promener autour. Je regarde toutes les eaux qu'il y a là, là. Tu vois, il y en a bien, hein? Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Ah oui, on pourrait prendre un os et puis tout le casser. Verset 3, regardez ce qui est écrit. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Intéressant. Est-ce que vous pensez qu'ils vont revivre, ces eaux-là? Après ce que je vous ai dit aujourd'hui, eh bien, on va le lire. Donner un beau petit résumé de ce que je vous ai dit ici. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Oui, l'Éternel sait qu'est-ce qui va se produire à ces eaux-là que je viens de vous montrer. Ah oui, il sait. C'est, ça fait partie de son plan. Le 8e jour? La réponse est oui. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, Écoutez la parole de l'Éternel. Dieu est tout puissant, il peut tout faire. Et oui. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Oui, il a dit ça, ce paquet d'os. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Eh oui, regardez l'autre photo. Qui provient d'une de nos brochures du temps de M. Armstrong. On voit les os, puis on voit maintenant la résurrection. Deuxième résurrection. Ces gens vont avoir de la peau, vont être reconstitués avec des nerfs, comme on voit, etc. Oui, tout est là. Tout est là. En plus, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Oh, là, à ce moment-là, ils vont connaître Dieu. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Eh oui, comme un aimant. Toutes les eaux se formaient. Puis, ils ont fait ça. Pas compliqué. Voilà. Pour Dieu, c'est rien. Verset 8. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit encore. Mais ils étaient tous là, complets, comme ça. Pas compliqué. Mais il n'y avait pas d'esprit encore. Mais il y avait de la peau. Il était mieux que ça, lui, il n'y a même pas de peau. Bon. Comme la photo que je vous ai montrée. Puis là, regardez ce qu'il dit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 80, souffle sur ses morts, et qu'il revive. Merveilleux, ça. Verset 10, dernier verset. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds et marchaient, bougeaient. En plus, regardez, c'était une armée nombreuse. Je comprends. C'est tous les êtres vivants qui n'avaient pas connu Dieu dans leur première vie physique et qui, à la deuxième résurrection, lors du dernier grand jour, vont justement être debout, les os rassemblés avec de la peau, avec un esprit. C'était une armée nombreuse. Très nombreuses. Et oui, mon père va faire partie de ces gens-là. Mon frère Robert, sûrement beaucoup d'autres que je connais. Des gens j'ai travaillé avec à la pharmacie ou quoi que ce soit, à l'école. Mes petits copains, on faisait des mauvais tours des fois dans la classe, etc. Mais ils vont être tous là. Vraiment, frères et sœurs, Dieu est amour, Dieu est bonté, et Dieu veut que nous soyons avec lui. Oui, dans le monde de demain, et d'avoir la vie éternelle. Vraiment, ce que je viens de vous dire, c'est la signification de la fête du dernier grand jour, dont vous et moi célébrons aujourd'hui. Grâce à la foi, la connaissance que nous avons, qui nous permet d'être en pleine assurance que Jésus-Christ et Dieu le Père vont procéder avec cette dernière fête, le dernier grand jour. Donc, Remercions Dieu. Terminons cette belle journée. Elle n'est pas terminée. Elle se termine au coucher du soleil, vers 6h15, 18h15. Ne l'oublions pas. Observons-la jusqu'à la fin. C'est important pour vous et pour moi.